Merci, à bientôt.
RVE, bonne matinée. Il est 11h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Je ne vais pas vous reparler de l'ouragan Irma qui a frappé les Antilles françaises. C'est un feuilleton qu'on a suivi et qu'on continue de suivre au jour le jour et qui a presque esquissé le feuilleton de la semaine d'avant, la disparition de la petite Maëlys en Isère. Et là, ça a progressé avec d'abord le suspect qui a reconnu que l'enfant était monté dans sa voiture dans la nuit du mariage en Isère, qu'elle était entrée dans la voiture avec un petit garçon pour voir si son chien était dans le coffre. Ça, c'est ce qu'il reconnaissait en début de semaine. Sauf que, on apprend en fin de semaine, un nouveau mensonge du suspect dans cette disparition. Il affirmait qu'elle était montée dans le véhicule avec un garçonnet. Or, ce deuxième enfant n'existe pas après recoupement et opéré par les enquêteurs. L'étau se resserre donc de plus en plus. On apprend par ailleurs que le suspect a soigneusement nettoyé le coffre de sa voiture avec un produit utilisé habituellement pour nettoyer les jantes. Produit puissant qui peut perturber l'odorat des chiens qui ont été utilisés évidemment pour retrouver la trace de la disparue en reniflant la voiture du suspect. À propos de voiture, Peugeot Citroën aurait truqué 2 millions de moteurs, affirme la direction de la répression des fraudes qui accuse PSA d'avoir vendu près de 2 millions de véhicules dont le moteur truqué avait un dispositif pour gruger les tests anti-pollution. PSA dément toute stratégie frauduleuse. Voiture toujours, les contrôles de vitesse opérés par des entreprises privées. L'expérimentation va être lancée en Normandie. Les premiers PV tomberont à partir du mois de décembre ou du mois de janvier. Il s'avère qu'aujourd'hui, la flotte de 400 voitures qui flashent en roulant ne roule en fait qu'une heure par jour. Les policiers et gendarmes ont d'autres choses à faire. Alors en confiant ces véhicules à une société privée, eh bien, ils rouleront 5 heures par jour et donc il y aura plus de PV. Plus de PV, c'est plus de recettes fiscales. L'exécutif songerait à privatiser la Française des Jeux qui rapporte 3,2 milliards d'euros par an de recettes fiscales. Et privatiser ou non, eh bien ça ne changerait pas en fait. C'est juste la structure Française des Jeux qui serait privatisée, laquelle continuerait de reverser à l'État le montant des taxes sur les Jeux. Emmanuel Macron aussi a parlé d'argent cette semaine. Il a demandé aux propriétaires de baisser leur loyer de 5 euros par mois. Rien que ça, pour compenser la baisse des APL par son gouvernement de 5 euros par mois. Sidérant à peu près tout le monde. À propos d'immobilier, au-delà de 3 ans, il vaut mieux acheter son logement. C'est l'étude de meilleurtaux.com. Une acquisition est rentabilisée en moyenne au bout de 3 ans pour un 70 mètres carrés. Autrement dit, si une personne reste locataire plus de 3 années, la location devient une source de perte par rapport à l'achat. Évidemment, c'est une moyenne nationale. Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisi. Passez une excellente fin de week-end.
RBE. Et
RVE 103.7, c'était la rétrospective de l'actualité de la semaine avec Edouard. À venir, le sport, deuxième heure exceptionnellement avec Philippe Carnus. Et puis, la météo avec un ciel aujourd'hui qui sera variable, alternance de gros passages nuageux, voire de pluies éparses et de quelques éclaircies. Dans la soirée, de la pluie, des températures aujourd'hui maximum 18 à 19 degrés.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnus.
Oui, et on vous gâte hein, pour cette émission de rentrée, on vous l'a dit, 10h midi, donc émission exceptionnelle de 2h pour ce début de saison. On vous a parlé naturellement du Tour de France en grosse partie pour la première heure. On reviendra encore sur le vélo avec le Critérium de Longjumeau qui a en quelque sorte prolongé le Tour de France. Ensuite, on ira voir du côté de Poigny-la-Forêt où les 23 et 24 septembre, c'est-à-dire dans 15 jours, se dérouleront les championnats de France des sapeurs-pompiers à Saint-Léger en Yvelines. Et puis Francis, on va encore se projeter sur les courses aujourd'hui à l'hippodrome de Rambouillet. Vous allez donc nous rappeler une nouvelle fois vos pronos pour cette 8e et avant-dernière réunion de la saison.
Oui, la réunion 10 du PMU aujourd'hui, donc avec 8 courses. Dans la première, je vous propose le 10, le 5, le 13, le 4 et le 3. Dans la seconde, le 5, l'As, le 6, le 8 et le 2. Dans la troisième, le 16, le 13, le 7, le 14 et le 12. Dans la quatrième, le 12, le 3, le 10, le 12 et le 16. Dans la cinquième, le 13, le 9, le 5, le 13, le 9, le 7, le 5 et le 12. J'ai oublié.
Faut pas se tromper. On les écoute bien pour les pronos.
Pour la sixième, qui est l'épreuve la plus importante de la journée avec une épreuve à 25 000 euros. Donc je vous propose l'As, le 6, le 15, le 16, le 14, et je me permets un petit sixième, le 17. Mmh. dans la 7e, le 12, le 4, le 7, le 3 et le 13. Et dans la 8e, qui sera une course d'amateurs où il n'y aura que des femmes sur les sulkis. Donc je vous propose le 10, le 4, le 11, le 5 et le 12.
D'accord, ok. Puis on verra si vous êtes trompé à l'issue de cette journée. Hein. En général, il y a de bons pronos de la part de Francis. Hein. Il se lève tous les matins, il va à l'aube. Regardez l'état de santé des chevaux. Mais c'est bien, Francis.
Ouais, je préfère l'avoir de visu. Hein.
Voilà. Alors, on vous a parlé du Tour de France. Eh ben, on l'a prolongé, le Tour de France. J'ai été tellement ravi d'avoir passé 3 semaines sur les routes du Tour, avec beaucoup de suspense, de passion, de ferveur et de joie, qu'on l'a prolongé à travers le Critérium cycliste de Longjumeau qui s'est déroulé le 31 juillet. C'était donc un peu plus d'une semaine après l'arrivée du Tour. C'est une tradition, c'est la deuxième année consécutive qu'on essaie, à travers ce seul Critérium cycliste d'Île-de-France, de perpétuer un peu la fête. C'est aussi l'occasion pour les spectateurs d'aller carrément voir de visu ceux qui les ont fait rêver pendant les routes du Tour. Alors, pour l'anecdote, c'est Johan Ofredo, dont on a beaucoup parlé. Il a été très médiatiquement relayé cette année sur les routes du Tour, Johan Ofredo, l'Estonien qui s'est imposé devant un autre Estonien, Tony Galopin. Et le troisième, c'est naturellement Sylvain Chavanel. Alors, on avait écouté Stéphane Roche. On va écouter le parrain de cette deuxième édition du Critérium cycliste de Longjumeau, ni plus ni moins, un des plus grands sportifs des années 80, cette génération exceptionnelle, c'est Bernard Hinault. Avec Bernard Hinault, ici présent au Critérium de Longjumeau. Bernard, ça doit vous rappeler des bons souvenirs.
Oui, ouais, des bons et des mauvais, parce que j'ai gagné, je suis tombé, j'ai perdu, c'est la course. Hein. Mais ça fait énormément de plaisir de voir que des coureurs ont encore envie de se battre, même après le Tour de France qu'ils ont fait.
Oui, alors d'autant plus que faire un dernier, pour nous, c'est entre le pilote et le coureur.
Surtout qu'ils se connaissent très peu. Il y en a quelques-uns. Bon, je pense qu'il y avait Tony qui connaît bien parce qu'il s'entraîne avec son père, mais les autres, ce sont des gens avec qui ils n'ont jamais pu ainsi rouler. Mais bon, on peut toujours discuter, dire attention, top, ralenti, accélère. Bon, il y a toujours moyen de trouver les solutions si l'entraîneur est bon.
Alors, je me souviens effectivement vous avoir vu au Critérium des As, vous étiez tombé. Hein. C'est pas un très bon souvenir pour vous.
C'était pas un très bon souvenir. De la course. Hein.
Ouais.
Le tout, c'est de pouvoir repartir et d'avoir envie de recommencer, de faire la même chose.
Bernard, c'est bien comme ça, ces critériums qui voient le jour, ce contact de ceux qu'on fait rêver, donc les Français pendant 3 semaines, au contact de ce public.
Bien sûr. On a connu une époque où il y avait X critériums, il y en avait des centaines. Et aujourd'hui, on en a quand même très peu, c'est une dizaine à peine. Et c'est très bien parce qu'il y a des gens encore qui sont encouragés pour refaire ça, parce que c'est la fête dans une ville. Et c'est un peu le Tour de France qui vient dans la ville.
Ouais,
et ça, c'est génial. Qui se prolonge. Et ça, c'est génial. C'est la communication avec le public.
Vous aimiez ce contact avec le public, même si ça n'a pas toujours été facile.
Mais après, il faut s'organiser de manière à ce que ça se passe dans les meilleures conditions. Mais c'est vrai que nous, on en faisait énormément. Il n'y avait pas de. Pendant tout le mois d'août, fin juillet, début, jusqu'au. Presque la fin août, il n'y avait, pour ainsi dire, pas de course. Donc il n'y avait que des critériums tous les jours et parfois 2 par jour. Donc c'était vraiment le tout proche du public.
Avec des déplacements parfois très difficiles en voiture.
Hein. Non, parce qu'on. Au tout début de ma carrière, oui, on nous faisait courir d'un bout à l'autre, et puis quand on a monté cette structure avec Cyril Guimard, donc c'était plus du tout pareil, c'était maximum 250 km, autrement c'était l'avion. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est que des athlètes et qu'il n'y a pas que les critériums, il y a aussi d'autres courses, et quand la saison finissait en octobre, il fallait encore être présent pendant toute la fin de saison.
Bon, Bernard, ce tour 2017, il vous a plu comme nous tous?
Il est un peu mitigé parce qu'il y a des moments où il n'y a pas de course toute la période, je dirais comme les étapes de plat où on laisse partir 2 gars et puis après personne ne roule que jusque sur la finale. Et puis il y a eu des super étapes de montagne qui nous ont fait rêver, avec des coureurs français surtout.
Et vous, pour la première fois, vous l'avez vécu pratiquement que chez vous? Il y a eu un manque?
Non, pas du tout. Non. Je pense qu'à partir du moment où on a pris la décision de s'arrêter, je crois que dans la tête c'est prêt, il n'y a pas de souci.
Ouais, on le voit différemment.
Je n'ai pas vu plus différemment. J'ai regardé quelques étapes dans les arrivées sur le plat et puis les étapes de montagne. Mais le reste, non, je ne suis pas un assidu pour passer 3 heures ou 4 heures à voir 4 coureurs devant et un peloton derrière qui roule. Je pense que la France, j'ai visité en long et en large, donc autant que je me rince l'œil juste au dernier moment.
Merci Bernard.
Merci.
Ah, sacré tempérament. Ça, c'est du Bernard Hinault. Hein.
Il n'a pas changé.
Non, on l'a souvent eu au micro d'Hervé. Hein. C'est une des grandes légendes des années 80, Francis. Hein, on en parlait avant de lancer cette interview. Michel Platini, Yannick Noah, Alain Prost, Jean-Pierre Yves, Serge Blanco, Bernard Hinault, Laurent Fignon. Ça fait partie de cette génération exceptionnelle des années 80. C'est une légende du sport français.
Oui, il est rentré dans le Gotha du cyclisme par deux coups de force. Je me souviens quand j'étais gamin, je peux le dire, parce que dans mon heure natale, j'écoutais la radio le dimanche. Oui. Dimanche après-midi, à l'époque.
Sport et musique, avec Jean-Paul Brochon.
Voilà. Ouais, et bien, il y avait aussi les radios belges, parce que je suis pratiquement frontalier quand j'étais jeune. Et on écoutait la radio belge et il y avait une des classiques flamandes qu'il a gagné, je ne sais plus laquelle.
C'était Gant Wevelgem qu'il a gagné.
Le commentateur belge qui disait il y avait, je ne sais plus, ils étaient échappés à 4 ou 5, ils disent notre français qui, grosso modo, n'avait rien à faire dans le groupe et qui a gagné l'épreuve. Voilà, je dis,
En tout cas, c'était le parrain de cette édition, donc 2017, du Critérium de Longjumeau avec Daniel Potra, l'ex-journaliste commentateur de TF1 qu'on retrouvera tout à l'heure. En attendant, on va écouter Madame le maire, Sandrine Jolot, donc nous parler de l'organisation de ce Critérium. C'est la deuxième édition, on l'a dit. Hein, l'année dernière, c'était donc Samuel Dumoulin qui s'était imposé devant Sylvain Chavanel. Cette année, c'est un Estonien, donc Johan Ofredo, devant un autre Estonien et pas un Estonien, Tony Galopin. Et le troisième, donc Sylvain Chavanel. Donc, Madame Sandrine Jolot, elle espère que ça va quand même pouvoir continuer la fête du vélo sur Longjumeau. Avec Madame le maire de Longjumeau, Madame Sandrine Jolot. Madame le maire, encore une belle fête pour le vélo ce soir.
Oui, très belle fête. Beaucoup plus de public que l'année dernière. Donc, on se dit que petit à petit, d'année en année, ce Critérium trouve son public. Ça fait plaisir de voir des gens heureux sur les bords des routes à Longjumeau.
Ouais, on a eu un peu peur avec la météo quand même. Hein.
Ah, c'est toujours les aléas, c'est toujours compliqué. On a beau être en plein été, il y a toujours une petite averse qui peut surgir. Et voilà, ça a été le cas aujourd'hui, mais ça n'a pas empêché le bon déroulement de la course.
C'est facile de mobiliser comme ça toute une série de personnes un 31 juillet.
Alors, c'est vrai que c'est compliqué. La plus grosse part de l'organisation revient quand même à l'association d'Eric Ramos. Et nous, la ville, on est vraiment en soutien avec nos agents. C'est beaucoup de travail en amont aussi, beaucoup de réunions de préparation. Puis le jour J et 2-3 jours avant, effectivement, tous les services techniques de la ville, les services de la vie associative, du sport qui sont mobilisés. C'est vrai que c'est beaucoup d'heures, beaucoup de fatigue, mais en même temps, des gens qui sont impliqués pour le service public et ça fait du bien.
Oui, puis c'est la caisse de résonance pour votre ville, fatalement.
Bah, on le fait pour ça aussi, hein. C'est vrai qu'on le fait pour les Longjumellois et en même temps, moi je préfère qu'on parle de Longjumeau à travers un bel événement sportif qu'à travers des inondations comme on a eu l'année dernière.
Oui, bien sûr. Vous l'avez dit, donc Longjumeau, ville de sport, fatalement.
Ah, c'est vrai qu'on est passionné de sport. Moi je pense que il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres domaines où on peut vivre des émotions aussi fortes. C'est vraiment des moments qu'il faut partager et quoi de plus facile que de partager un sport, en plus un spectacle populaire gratuit comme celui-ci et qui fait du bien à tout le monde. Donc moi c'est ce que j'aime. Hein.
Oui, puis après un Tour de France très sympa. Hein.
Voilà, et en plus c'est vrai qu'on a vu quand même ce petit à-compte avec le passage du Tour hein, qui avait déjà rencontré beaucoup de ferveur et qui nous avait vraiment fait plaisir, fait du bien. Donc c'était aussi une bonne pub une semaine avant le Critérium pour faire venir du monde.
Très bien, bah rendez-vous en 2018.
J'espère qu'on y arrivera.
Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Voilà, il n'y a pas de raison, Madame le maire, de ne pas y arriver, donc à perpétuer ce Critérium cycliste de Longjumeau. En tout cas, il est passé dans cette ville. Bah, c'est bien ces passages en Ile-de-France. Hein.
Oui, c'est pas ça, France, comme
c'est une tradition de changer un peu de département.
Ouais, c'est bien. Et puis c'est une tradition qui perdure, même en province. Si hein, bon. Il y a toujours des grands prix qui sont connus, un grand prix de Fourmies, un grand prix de Denain, un grand prix de Plouet, je crois. Donc,
Oui, mais là c'est un peu plus sérieux que les Critériums quand même.
Oui, mais enfin. Ouais.
Voilà. Alors un autre commentateur, un autre quelqu'un qu'on connaît, une autre personnalité, le commentateur, le speaker de ce Critérium, bah, c'est Daniel Mangias, hein, l'illustre Daniel Mangias qu'on ne présente plus. Il a pris sa retraite concernant le Tour de France et les épreuves d'ASO, mais il continue quand même à commenter les autres épreuves, notamment les Critériums. Vous allez voir, c'est un type qui, pour rien au monde, voudrait lâcher le monde du vélo. Daniel Mangias, donc au micro d'Hermeux.
J'ai avec Daniel Mangias qui a donc une nouvelle fois animé ce critérium de Longemont. Daniel, belle soirée encore pour le vélo.
Oui, beaucoup de monde, une course intéressante, un vainqueur, une course de mouvement. On savait que Johan Ofredo était motivé. On a vu qu'il est allé chercher la victoire. Tony Golopin fait 2. Sylvain Chavanel fait 3. Mais il y a une course très très intéressante. Et ce qui confirme le succès du critérium, c'est la présence du public extrêmement nombreux.
Oui. Ça, c'est la force du vélo, hein. Surtout après un tel Tour de France.
Oui, après tout le Tour de France. Mais on a vu que les coureurs avaient plaisir à être là. C'est une épreuve différente. En général, on a un critérium traditionnel. Là, c'était derrière Derny. Et on sentait effectivement que c'était quelque chose qui leur faisait plaisir.
Oui, ils aiment ce contact. Hein. Ils ont fait rêver la France pendant 3 semaines. Ouais. Ils aiment ce contact avec le public.
Ah bah c'est le contact avec le public qui permet d'acquérir la popularité. Et aujourd'hui, Johan Ofredo est entré dans tous les foyers et plus encore à Longjumeau qu'ailleurs.
Oui. Et vous, toujours présent pour ces rendez-vous? Ça vous manque pas le Tour de France? Vous partez en Norvège, toi, pendant 3 semaines?
Non, là j'étais à la maison. Bah c'est sûr que ça manque. J'en ai fait 41. Puis je commentais les départs et les arrivées. Mais comme je continue à commenter toutes les autres courses en France, hormis les courses à Esso, donc à partir de là j'ai toujours un contact avec ce milieu, et c'est vrai que si je n'avais plus le contact avec le milieu cycliste, je crois qu'il me manquerait beaucoup de choses.
Comme vous l'avez dit, hein, vous n'avez jamais travaillé, vous avez fait que du plaisir, quoi.
Voilà, pour moi, il y a un monsieur qui est venu me voir, il me dit à la retraite. J'ai dit, la retraite c'est pour les gens qui ont travaillé. Moi je me suis amusé toute ma vie.
Très bien, merci d'ailleurs.
Merci.
Voilà, vous avez vu, hein, Daniel Mangias, il fait partie du vélo, c'est une institution, hein.
C'est une institution, c'est un moulin à parole.
Hein, ouais,
quand
bon,
on l'écoute, il n'arrête jamais.
Une mémoire phénoménale, hein. Ouais. Encore plus que nous, hein, même s'il a des fiches, mais encore plus que nous. Hein.
Bah, il a toujours fait que ça.
En tout cas, type très sympa. Allez, on va aller du côté des coureurs. Le vainqueur de cette édition 2017 du Critérium, le local, Johan Ofredo. On l'a dit, hein, on l'a beaucoup vu sur les routes du Tour, y compris parmi les intervieweurs. Il n'a pas laissé indifférent, et Johan Ofredo, il avait gagné ce Critérium. Il voulait rentrer, mais enfin, on a réussi quand même à l'interviewer pendant quelques petites minutes.
Avec le vainqueur de ce Critérium de Longjumeau, Johan Ofredo, il y aura une belle fête ce soir pour le vélo à Longjumeau.
C'est toujours sympa, c'est des moments agréables, ça poursuit un peu la magie du Tour, et c'est ce qui fait que les critériums sont toujours un succès populaire.
Oui. Vous savez que vous avez été un véritable héros sur ce Tour de France, hein, tout le monde vous connaît médiatiquement. Est-ce que vous avez cette perception au sein du public?
Oui, c'est vrai que le Tour de France, c'est une caisse de résonance importante, et voilà, c'est des courses qui passent à la télé, ça fait partie aussi du patrimoine français, donc c'est toujours des moments sympas, et puis d'être reconnu par le public, c'est agréable.
Votre vie a changé de coureur depuis le Tour de France? Quand on termine le Tour de France, on a un autre coureur fatalement?
Un autre coureur, non, pas spécialement, toujours le même coureur, mais c'est vrai que le fait d'être reconnu par le public et tout ça, c'est toujours des moments agréables, je suis toujours le même coureur.
Oui. Vous savez que vous faites plaisir à tous ces gens, vous avez conscience de ça, leur critérium, c'est un beau cadeau pour eux.
C'est pour ça qu'on fait du vélo, hein. C'est pour le sourire des gens, et c'est notre récompense.
Très bien, merci Johan.
De rien.
En tout cas, il a une belle conception de son métier, hein. Johan Ofredo, il a fait le détour spécialement pour nous, il était sur le point de rentrer et il a fait le détour pour répondre au micro d'Hervé.
Sympathique.
Oui, non, mais c'est un coureur qui a un bel état d'esprit et une belle conception de son métier. Allez, on a entendu Alexandre Pasteur tout à l'heure, le commentateur actuel donc du Tour de France sur France Télévisions. On va écouter un ancien qui était le parrain de cette édition 2017 avec Bernard Hinault. C'est Daniel Potras, hein, qui reste lui aussi assez féru des choses du vélo. Il a écrit un bouquin, Daniel Potras, et vous allez voir, il a toujours un œil passionné sur ce sport.
Avec Daniel Potras, Daniel, toujours fidèle aux grands événements de vélo à travers ce critérium de Longjumeau.
Oui, c'est bien parce que c'est une occasion de retrouver vraiment toute la famille du cyclisme, et c'est le seul sport qui arrive à réunir les supporters, les coureurs très proches les uns des autres, comme ce soir encore les coureurs sont avec tous les bénévoles qui ont organisé ce critérium, et il n'y a qu'un sport comme le vélo qui peut faire ça.
Oui, vous auriez aimé appartenir à cette époque des commentateurs avec cette génération?
La génération de coureurs, je leur aurais peut-être appris à être autre chose que des ovnis, les objets pédalants non identifiables, avec leurs casques et leurs lunettes. Le casque, il est obligatoire, et puis les oreillettes, oui. Le casque, encore, ça va, mais il faut savoir l'enlever après l'arrivée. Et puis les lunettes, c'est vraiment incompréhensible. Ils ne savent pas communiquer, personne ne les reconnaît. Tant pis pour eux. Moi, je leur aurais peut-être appris parce que on était proches les uns des autres et on s'entraidait.
Mais les cyclistes restent quand même des sportifs très accessibles, Daniel, hein, par rapport à l'ensemble des autres sports.
Oui, c'est vrai, mais ils pourraient être plus médiatisé encore, vice s'il n'avait pas maintenant ses lunettes avec leur casque en permanence. Mais peut-être que les lunettes, ça leur permet aussi de camoufler leur regard et de cacher leur faiblesse quand ils en ont au milieu du peloton.
Bon, vous avez écrit un bouquin où on retrouve les plus grands de l'histoire du Tour de France.
Oui, je viens d'écrire les mémoires du Tour de France. J'ai eu la chance de suivre plus de 50 Tours de France. Encore cette année, j'y étais. C'est toute une série d'anecdotes, c'est tout ce qui a émaillé toute ma carrière et même beaucoup de choses que je n'avais pas pu dire en sautant au micro et que j'ai pu écrire 40 ans après.
Alors question bateau, il y a un tour ou deux qui vous ont marqué, plus que les autres, peut-être 89 quand même, Laurent Fignon et Greg Lebonne.
Oui, non, mais ça c'était la dernière étape, et le tour qui a été le plus marquant de toute l'histoire, c'est le tour 64 avec le duel Anctil-Poulidor, l'histoire d'Envalira, l'histoire de Dandor, le jour de repos, et puis la montée du Puy-de-Dôme, le coup d'à coude, et la dernière étape où au Parc des Princes, tous les journalistes et beaucoup de ses supporters étaient autour de Poulidor en train de lui dire qu'il avait gagné, et ils s'étaient trompés d'une minute dans leur calcul, et moi j'arrive encore auprès de Poulidor en courant, et je lui dis: Raymond, alors encore deuxième? Il me dit: mais c'est pas vrai, c'est pas possible, tout le monde me dit que j'ai gagné. Je dis: non Raymond, vous êtes battu de, je sais plus, ça fait 40 secondes à peu près, et vous êtes deuxième. Et là il savait plus quoi dire, c'était la minute la plus épouvantable de la carrière de Raymond, et moi c'est un scoop dont je me serais bien passé, parce que j'aurais bien aimé qu'il le gagne au moins une fois, le Tour de France.
Et ce Tour 2017, vous l'avez vécu comment?
Ben, je l'ai suivi. J'ai suivi, j'ai trouvé qu'il y avait un renouveau. Et le Tour 2017, il a été sauvé par les coureurs français, par Arnaud Demare, par Calmejane, par Barguil et par Bardet. Et comme les footballeurs s'intéressent beaucoup à leur nouvelle vedette Mbappé, eh bien moi je dis que dans le vélo, j'aime Bardet et j'aime Barguil.
C'est bien. Dernier petit mot, Daniel. Les retransmissions télé, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? On voit des étapes en continu.
Oui, on voit les étapes en continu, mais on s'ennuie parce que, je n'ai pas peur de le dire, les commentateurs ne savent pas mettre l'ambiance qu'il faut. Ils sont installés dans un studio confortable, alors que nous, on était sur la moto ou sur la ligne d'arrivée. On allait voir les coureurs le matin. Là, eux, ils passent 3 semaines sans rencontrer un seul coureur. Et on ne peut pas mettre de l'ambiance dans ces conditions-là. Donc, moi, je m'ennuie un petit peu. Je fais mes propres commentaires pour mes petits-enfants, d'ailleurs. Et je suis souvent largement en avance sur les autres.
Merci, Daniel. Merci, en tout cas.
Au revoir.
Voilà, on vous a gâté ce matin soir, Daniel Potra, Bernard Hinault, Alexandre Pasteur, sa mère, Arnaud de sa mère, et puis tous les coureurs qu'on a pu entendre. Daniel Potra, ça fait partie de cette génération, hein, les Pierre Cangioni, les Jean Reynal, les Christian Quidet, qui étaient concurrents sur TF1 de Robert Chapat, Thierry Roland ou Roger Couder.
Robert Chapat était un monument. Bon, oui, oui. Il a un peu une vision un peu particulière,
oui,
je trouve.
Oui, bah, on a des très bons commentateurs. Ouais, on a des très bons commentateurs.
Alexandre Pasteur, notamment. Deux journalistes sur moto, puis les épreuves, les étapes sont relativement courtes par rapport à
Elles années. Sont plus spectaculaires.
Elles sont plus spectaculaires. Bon, ce qu'on peut déplorer, c'est que dans les épreuves de les courses de les étapes de plat, bon, ça joue dans le dernier kilomètre, quoi. On a vu, il y a pas.
Ouais, mais ça a toujours été comme. Ouais, enfin, mais... un peu plus maintenant avec les oreillettes. Avant, c'était un peu moins. C'est vrai, mais ça.
Il y a toujours des échappés qui font la course, qui font l'animation, ils sont toujours récupérés dans les derniers kilomètres.
Voilà en tout cas pour ce gros chapitre vélo avec le Tour de France prolongé par le Critérium cycliste de Longjumeau. Alors on va écouter maintenant une autre page de pub et une autre pause musicale. Et ensuite on va s'intéresser à ce qui va se passer dans les prochaines semaines, même si on fera aussi un petit retour en arrière sur les autres événements sportifs.
Labassienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure reconnu au Grenelle de l'environnement, vous propose des devis gratuits pour la rénovation de vos fenêtres, portes, volets, stores, portails, portes de garage et même des prestations d'isolation de comble et maintenant d'isolation par l'extérieur. Demandez vos devis gratuits à Bassienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure reconnu au Grenelle de l'environnement, showroom 27 rue de Chartres au Péray-en-Yvelines. Voir conditions magasin.
Hello les amis, je viens de me faire plaisir à la boutique Bellamy à Rambouillet. J'y trouvais déjà des looks sympas, avec barbours et un éventail de chemises pour toutes les circonstances. Et pour ce printemps, je viens de m'offrir un total look Tommy Hilfiger. C'est un bon sportswear, c'est de bonne facture, c'est pour vous aussi, j'en suis sûr. Une offre élargie de la marque Tommy Hilfiger, ça vaut le détour à la boutique Bellamy. Un centre de la guirlande de Julie, à Rambouillet.
Émission de rentrée. Alors, on va encore rester dans le vélo. On a parlé du Tour de France et du Critérium cycliste de Longjumeau. On va parler maintenant, on va se projeter hein, sur l'avenir et sur ce qui va se passer. Je l'ai dit, dans 15 jours, les 23 et 24 septembre prochains, il y aura les championnats de France des sapeurs-pompiers à Poigny-la-Forêt. À l'initiative donc de Poigny, et on va remercier le maire Monsieur Convert hein, de Poigny-la-Forêt qui a beaucoup œuvré pour l'organisation de ce beau week-end de vélo. Alors, ils devaient venir dans nos studios ce matin et puis ils ont été réquisitionnés par leur fonction dans le monde du vélo. On va écouter Daniel Le Cornec, qui est le secrétaire général de l'Union sportive de Poigny-Rambouillet, et puis du célèbre Jean-Claude Davignon, hein, commissaire qu'on ne présente plus. Et du coup, ils sont venus nous présenter ce week-end de compétition dans nos studios cette semaine. Allez, après cette donc première partie consacrée aux grands événements sportifs de l'été et notamment au récent Tour de France, mais aussi au Critérium cycliste de Longjumeau, on va continuer sur l'actu beaucoup plus immédiate avec mes deux invités de ce matin. D'abord Jean-Claude Davignon, qu'on salue. Jean-Claude, bonjour, ça va bien?
Ouais, bonjour Philippe, ouais. Impeccable. Ouais,
on a vécu un bel été de vélo avec un beau Tour de France
exactement.
Notamment.
Oui, ouais. Exactement, et on vit encore un... Bel été vélo avec la Vuelta, si on regarde tous les après-midi, là, quand j'ai 5 minutes.
Très bien. Et puis, donc, avec aussi Daniel Le Cornec, que je salue. Salut Daniel.
Bonjour Philippe. Voilà. Bon, moi ça va. Je suis le secrétaire général de la Coordination française de cyclisme des sapeurs-pompiers, qui regroupe donc la Fédération française de cyclisme et le SDIS des Yvelines, qui est partenaire, enfin qui est organisateur avec nous.
Alors effectivement, il va se passer dans 15 jours, le 23 et 24 septembre prochain, les championnats de France, ni plus ni moins des sapeurs-pompiers à Poigny-la-Forêt. Alors on va rappeler quand même pour le grand public qu'il y a quelques années, il y a eu des championnats du monde VTT à Saint-Léger, en Yvelines.
Oui, à Saint-Léger, dont j'étais l'organisateur, du fait que j'étais chef de corps du corps des sapeurs-pompiers de Saint-Léger en Yvelines. Et pour ma, c'était l'année de ma retraite, donc on a voulu, avec mon fils qui était également avec moi, organiser les championnats du monde VTT à Saint-Léger.
Ouais, ça reste un bon souvenir, hein. On a eu l'occasion d'aller faire quelques directs, ça reste vraiment un énorme souvenir du côté de Saint-Léger.
Très bon souvenir, oui, oui. Mm-hmm. Là, ça m'a permis de voir plein de monde que j'avais vu déjà avant, mais là, pour ma retraite, c'était le top.
Daniel, comment le choix se fait pour organiser ce championnat de France sur Poigny-la-Forêt? C'est-à-dire qu'on se porte candidat aussi, comme pour un championnat de France sur route de vélo, et puis...
Cette année, c'était un peu spécial, car il y avait un département, c'était le département 62, à Bapaume, qui était candidat pour organiser ces championnats de France. Et à la dernière minute, tout était signé, et à la dernière minute, ils se sont désistés. Le centre qui devait, où devaient avoir lieu ces championnats, se sont désistés. Mm-hmm. Donc le président Jean-Jacques Martel, qui a dit, si on arrête une année ces championnats, pour reprendre après, ça va être très dur. Donc on va se lancer, on les organise. C'est pour cela qu'il vient nous donner un coup de main des fois à la Sud-Yvelines, tout ça. Et il a vu le circuit de la Gentleman, Mmh. Il a dit, ce circuit-là est très bien pour les championnats de France. Mmh. Et c'est comme ça que c'est venu à Poigny.
D'accord. Donc ça s'est décidé un an avant, à peu près.
Oui, un an avant, à peu près. Et parce que d'habitude, il faut au moins deux bonnes années pour bien cadrer tout. Mmh. Tandis que là, bon, un an, heureusement qu'on a le SDIS des Yvelines, qui est vraiment un bon coup de main pour nous.
Alors donc c'est toute l'équipe de l'US Poigny Rambouillet cyclisme qui va finalement être sur le champ à pied d'œuvre pour ces deux jours d'organisation. On va revenir sur le programme, il y a deux jours de compétition. Hein.
Oui, tout à fait. Donc avec Olivier Bourdin, comme il nous faut un club support pour organiser les championnats de France, on a choisi le club de support USPRC et Olivier nous aide beaucoup pour ça.
Et vous Jean-Claude, vous allez être le commissaire ?
Je fais partie de la... Comment on appelle ça je suis membre du corps arbitral de la coordination française de cyclisme des sapeurs-pompiers, puisque je suis en même temps aussi arbitre FFC. Ouais. Donc je fais partie du jury des arbitres. Voilà. Donc on va avoir à gérer le contre-la-montre, les épreuves sur route, et puis avant tout ça, la remise des dossards, des dossiers et tout, vérifier si tous les dossiers sont bien complets, les licences des coureurs, etc. etc.
Quoi. Alors on va rappeler que ce sont tous les coureurs licenciés FFC, hein. C'est une obligation ?
Oui, c'est une obligation, oui. Oui. Mm-hmm. Donc ceux qui ne sont pas licenciés FFC prennent une licence à la journée, qui sont en pris sur place le vendredi ou le samedi quand ils viennent tirer leur dossard. Mmh. Et à ce sujet, j'aurais un petit message en plus à donner. S'il y a des personnes qui voudraient nous rejoindre pour l'organisation, pour être signaleurs à certains carrefours, il nous manque quelques personnes, donc ils seront les bienvenus.
Oui, alors on pense au club cycliste avoisinant, mais aussi au club sportif avoisinant. Hein.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Mmh. Oui.
Alors, donc, tous licenciés FFC et tous sapeurs-pompiers, c'est une obligation ?
Oui. Enfin, licenciés FFC, oui, en majorité, oui. Mais il y a parmi eux des licenciés UFOLEP ou FSGT.
Ah, ils peuvent quand même.
Ils peuvent courir à condition de reprendre une carte à la journée FFC. Voilà, c'est les conditions impératives pour pouvoir participer à ces championnats.
Oui. Ça se fait régulièrement maintenant dans le vélo depuis une quinzaine, vingtaine d'années, ça, Jean-Claude, par rapport aux années 80 où il fallait être cantonné que dans une fédération.
Fédération, exactement. Oui. Maintenant, ils peuvent participer à certaines épreuves sous condition de prendre une carte à la journée FFC.
Mmh. Voilà. Et être obligatoirement sapeur-pompier. Alors, expliquez-nous les différents camps de métiers qui vont se présenter dans ces championnats de France.
Tous les sapeurs-pompiers, que ce soit professionnels, volontaires, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les marins-pompiers de Marseille et Monaco qui est en invité. Donc uniquement sapeurs-pompiers, les personnes qui ne sont pas sapeurs-pompiers ne peuvent pas participer à ces championnats.
Vous l'avez dit, des volontaires, donc aussi des bénévoles. Hein.
Et des bénévoles, oui. Les anciens sapeurs-pompiers peuvent participer à ces retraités, peuvent participer à la condition d'avoir rempli le dossier d'engagement et l'attestation du président de l'Union départementale.
Ça fera combien de concurrents au total sur ces différentes épreuves ? Combien vont concourir ? Parce qu'il y a les différentes catégories. Après, Daniel ?
Environ 72 départements.
Oui.
Et environ, alors j'avais un tout
à 150 à 160 pour le contre-la-montre.
Oui.
Et pour la course en ligne, 350 à 400. Ça dépend des années... et suivant les catégories.
Donc oui, alors justement les catégories, ça va se passer comment ? Il y a des catégories d'âge, il y a tout âge confondu, ça se passe comment ?
Alors nous, les catégories, ça se passe comme ça. Nous avons les féminines, 1 et 2, suivant leur âge. Les juniors, hommes ou féminines aussi. Les masters 2 et les masters 1.
Ouais, donc les masters, c'est les gens qui ont plus de 60 ans, c'est ça ?
70 ans.
D'accord. Ouais,
ouais. Bon, je dis pas autre chose. Les vétérans 2, 1 et 2, pareil. Et les juniors 1 et 2, c'est donc les courses, élites pour les sapeurs-pompiers. Seniors 1 et 2.
D'accord. Alors, on va donner le programme. Ça commencera le 23 septembre par une grande cérémonie d'ouverture. Conférence de presse d'abord.
Le 15 septembre pour la conférence de presse qui aura lieu à la salle des marais à Poigny-la-Forêt. Ensuite, le vendredi 22, ce sera à 14h, la remise des dossards aux concurrents. Le samedi 23, à 9h, la cérémonie d'ouverture devant la mairie de Poigny-la-Forêt. avec le lever des couleurs, la musique de la batterie fanfare des sapeurs-pompiers, des Yvelines. Oui,
on peut penser qu'il y aura tous les institutionnels qui seront là, notamment.
Tout à fait, oui. Toutes ces personnes-là sont invitées. Et à 10h précise, le premier départ du contre-la-montre, qui se fait devant la résidence du pressoir, à Poigny, route de Gazeran.
D'accord. Donc le samedi, ça va être que consacré aux épreuves de chronométrie.
Contre-la-montre. Donc ils ont un circuit de 18 km. C'est-à-dire ils passent par Gazeran, ils remontent sur Béchereau, Poigny, et arrivent devant la salle des marais, à Poigny. Et le dimanche, donc dès 8h15, premier départ des féminines et des masters. Et ensuite, c'est la cérémonie protocolaire une fois l'arrivée de chaque compétition. Mm-hmm. Ensuite, c'est le départ des vétérans. Et les 14h15, c'est le départ des seniors, 1 et 2. Et cérémonie protocolaire à la fin, avec remise des maillots, enfin tout qui va bien. Et après, un petit pot d'amitié pour tous les bénévoles, pour tout ça, dans la salle des marais.
Parce qu'on sait que les militaires et les pompiers sont des véritables sportifs accomplis. Ça fait partie de leur quotidien, hein, le sport.
Tout à fait, oui. Ils sont, d'ailleurs, il y a même des. On a même eu des pros dans les pompiers.
Oui.
Et toute cette manifestation est parrainée par Sandy Cazard.
Ah bien, d'accord, ok. Il sera le parrain, il sera là tout le week-end.
On ne sait pas s'il sera là tout le week-end, mais je pense qu'il sera là un des deux jours, ou peut-être les deux aussi. Hein. Mm-hmm. Voilà.
Mm-hmm. Bon, c'est toute une équipe donc qui est sur le pont. C'est une organisation supplémentaire parmi les très nombreuses organisations, hein, Jean-Claude.
Oui, exactement. Ouais. Enfin, moi je commence à y être habitué, ça fait 47 ans que je suis dans le vélo, en tant que dirigeant et en tant qu'arbitre. Mm-hmm. Puis avec les pompiers, j'y suis depuis 2000, je crois. Ouais. Donc ça fait 17 ans aussi que je participe.
Premier moment de la montagne.
Peut-être, 2000, ouais, bah, c'est ouais, ça, 2000. Exactement.
Est-ce que
j'avais participé déjà comme arbitre au championnat du monde à Saint-Léger, j'avais été pris par le collègue. Et au Muro aussi en 98.
En 2008.
2008, oui, bah oui, je suis conscient de 2000. Hein, voilà.
Ouais. Est-ce qu'on a encore une petite appréhension, après toutes ces années et ces années, on a toujours peur du grain de sable qui peut faire, je dirais, dérailler la machine, un incident, un problème sérieux?
Bon, on a toujours peur, mais bon, on met tout en place pour que ça se déroule du mieux possible. Hein.
C'est-à-dire des automobilistes qui ne veulent pas respecter de s'arrêter, notamment. Quoi. C'est l'éternel problème.
L'éternel problème, exactement. Mais on fait tout pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Mm-hmm. Voilà.
Et donc là, sur le secteur Poigny, nous aurons la police de Rambouillet. Mm-hmm. Et sur le secteur Poigny-la-Forêt et Hermeray, la gendarmerie. Mm-hmm. Parce que c'est deux secteurs différents. Donc on aura nous aurons deux policiers au feu rouge de Gazeran et deux à la sortie au rond-point. Et à la gendarmerie, on aura deux à Béchereau et deux au carrefour de Poigny qui montent sur Gazeran.
Très bien, bah écoutez, messieurs, merci. Hervé, naturellement, sera sur l'événement. On aura, oui, on va citer quand même les partenaires. Et puis ensuite, on aura une semaine après une belle fête. Ça sera les 40 ans du club de Poigny-Rambouillet. Mais d'abord, un petit merci à tous les partenaires, parce que c'est vrai que sans eux, il n'y aurait pas de compétition.
Tous les alains.
Tous les partenaires sont désignés là, c'est-à-dire le SDIS des Yvelines. La Fédération française des sapeurs-pompiers, l'Union départementale des sapeurs-pompiers, la CFCSP, c'est donc la coordination française de cyclisme, la SPI, c'est l'association sportive des sapeurs-pompiers des Yvelines, le conseil régional également, la mutuelle des sapeurs-pompiers, le conseil départemental, la FFC, Rambouillet Territoire, Poigny et le club cycliste USPRC.
Voilà, il faut remercier toutes ces institutions parce que sans eux, ça serait pas possible.
Oui, exactement. Oui, oui.
Voilà. Donc, et ensuite, la fête une semaine après.
Pour les 40 ans du club, lors de la gentleman.
Oui, ça tombe bien finalement ces manifestations qui vont chevaucher là.
Oui, peut-être que les riverains ça aura peut-être une gêne pour les riverains, mais je pense que c'est deux belles journées, enfin deux bons week-ends pour le cyclisme.
Jean-Claude, il y aura des mesures particulières pour les 40 ans, on va faire une petite fête après, non? On va, je crois, essayer d'avoir tous les anciens présidents, m'a dit Olivier Bourdin il y a quelques mois.
Oui, il a convoqué tous les anciens présidents, tous les anciens coureurs qui sont passés par le club, exactement. Donc, je sais pas, il a lancé peut-être 200-300 invitations.
Oui, on va voir ça.
On a une réunion lundi soir pour préparer aussi les 40 ans.
Donc, ce sera dimanche 1er octobre, dans l'après-midi, après le gentleman du matin.
C'est ça. Après la remise des récompenses de la gentleman, après on a la petite cérémonie pour les 40 ans.
Très bien, messieurs, merci. À très bientôt. Le rendez-vous est pris. Voilà, Francis, donc 23-24 septembre prochain, le premier gros rendez-vous sportif dans notre région, ça sera les championnats de France de cyclisme sur route. Il y aura le contre-la-montre, comme ils nous l'ont dit, et les épreuves chronométrées samedi, et les épreuves sur route, donc en ligne dimanche, ça sera à Poigny-la-Forêt. On y sera naturellement. Et puis il y aura donc les 40 ans de l'Union sportive de Poigny-Rambouillet. En matière de tennis, on aura les trophées Hervé, ça sera le même week-end, 23-24. Et puis on aura les finales sud-divines de Masters de tennis, mais cela, on en parlera. On l'a dit hier, il y avait une grosse donc rentrée associative à travers les forums des associations. Ça se présente bien pour le basket aussi, la rentrée?
Ça se présente bien. On a un peu de soucis avec les féminines, comme d'habitude, mais bon, on espère que ça ira bien.
D'accord, donc si les féminines nous écoutent, venez recruter en tout cas.
Voilà, venez au Rambouillet Sport Basket.
Alors justement...
Surtout les jeunes.
Hein. Oui.
Les jeunes et les moins jeunes. D'ailleurs.
Justement, on a parlé beaucoup des événements sportifs de cet été à travers le Tour de France, et puis le Critérium, cycliste de Longchamp. Il n'y a pas eu de vélo, il y a eu d'autres événements. On parlait de basket, et quand on est parti en vacances au mois de juillet, l'équipe féminine de basket venait juste de perdre une nouvelle fois une finale de championnat d'Europe. C'est la troisième finale consécutive perdue, c'est dommage. Hein. Ouais. Elles ont eu dans le passé deux titres, elles arrivent en finale, mais elles ne gagnent plus les finales.
Non, elles ne gagnent plus les finales, puis il n'y a pas eu photo, je crois. Hein, donc, bon. Mais bon, c'est tout de même bien, une seconde place.
Oui, c'est vrai qu'elles sont médailles d'argent, c'est un peu dommage, quoi. Elles ont été battues en finale, 71-55, donc face à l'Espagne.
Oui, face à l'Espagne, t'es notre bête noire, hein, comme pour les garçons d'ailleurs. Hein, mais là, il n'y a pas eu photo, il y avait une différence.
Et là, le championnat d'Europe, on peut penser que que nos Français seront en finale le week-end prochain, Francis, ou pas?
Ça va être dur. Hein.
Ça va être dur quand même.
Hein, parce qu'il n'y a pas eu des résultats très réguliers, surtout. Donc, il n'y a pas Tony Parker, c'est une génération qui se renouvelle aussi.
Oui. Alors, je voulais quand même, comme on parle dans les sports co, parler aussi de volley, parce que si l'équipe de France, elle, a gagné la Ligue mondiale face au Brésil 3-2, elle s'est complètement plantée au championnat d'Europe, elle s'est fait sortir au premier tour de la phase finale. C'est la Russie qui s'impose devant l'Allemagne 3-2.
Oui, ça a été une sévère déception pour l'entraîneur, mais j'ai vu quelques matchs et c'était pas brillant par moment.
Oui, comment expliquer que cette équipe était championne d'Europe il y a 2 ans, et puis là, elle passe même pas les quarts de finale, quoi. Elle échoue en phase de poule, en match de barrage.
Bah, c'est peut-être les autres qui se sont améliorés.
Ouais, ou alors c'était peut-être une équipe qui a pas su se regonfler, se remobiliser
ou se renouveler également. Mm-hmm. Parce que bon, il y a toujours... des cadres, je dirais, vieillissants tout de même.
Alors, je voulais quand même dire qu'au niveau basket, c'était la fin de carrière pour Céline Dumère et Gaëlle Scrella, quand même. Hein. Elles n'ont pas pu finir par un titre de championne d'Europe.
Non, c'est dommage.
Quelle carrière, quand
c'est
même.
C'est dommage,
hein,
pour Céline, parce que ça, c'est un monument du basket féminin français. Ouais.
Et vous savez que, pour faire le lien avec le basket et puis le volley, Yannick Souvray, qu'on a eu aussi au micro d'Hervé assez souvent, elle est maintenant une des responsables à la Fédération de volley. Elle s'occupe du volley sur... Oui. Très bien. Alors,
Mais Céline va être difficile à remplacer.
Ah oui, non, mais c'est sûr.
Parce que la finale, elle l'a joué et elle a tenu son rôle. Hein.
Alors, ça, c'était un des événements qui est arrivé quand on est parti en congé. On va aussi, en matière de tennis, saluer la victoire de Roger Federer. Federer, il a gagné son 8e Wimbledon. Nadal avait fait la passe de 10 sur Roland-Garros au mois de juin. Federer, 8 Wimbledon. Les anciens se portent bien, même si là, pour flécher une médaille, Federer ne sera pas en finale. Nadal est plutôt bien parti pour gagner à nouveau un Flushing Meadow devant le Sud-Africain Andersen en finale.
Mais Federer a bien géré sa condition physique. L'année dernière, il a été blessé et il n'a pratiquement pas joué. Donc, il est revenu frais cette année. Et puis, l'expérience fait qu'il est revenu au premier plan.
Oui, 19e tournoi du Grand Chelem. C'est phénoménal quand même, comme carrière au niveau longévité.
Bah oui, mais il n'est pas... À quel âge il a maintenant? Il a 35 ans, quand même.
Mais c'est bien, les anciens se portent bien au tennis, comme quoi.
Mais il récupère, c'est parce qu'il a bien récupéré.
Ouais.
On en revient au problème de fraîcheur, un peu comme on parlait de Warren Barguil tout à l'heure.
Mais enfin, Bargui, il est beaucoup plus jeune quand
il
même.
Est beaucoup plus jeune.
Voilà. Alors, parmi les autres grands événements de l'été, il y a eu des championnats du monde, hein, naturellement, les traditionnels championnats du monde. En natation, ça a été un bilan plutôt assez médiocre. Une or, une bronze. C'est quand même Camille Lacour qui sauve sa fin de carrière. Ouais, sa fin de carrière, en obtenant donc un titre, un nouveau titre de champion du monde sur 50 mètres d'eau. Mais j'ai l'impression qu'avec Camille Lacour qui s'en va, c'est une génération qui est partie. On va rentrer dans des périodes un peu plus difficiles, Francis, en natation.
Bah, c'est comme tous les sports, il y a des hauts, des bas, mais là, je crois qu'on est dans la pente descendante, malheureusement. On peut espérer qu'il y ait des jeunes qui prennent le relais, mais bon, ça s'annonce, quand même. Ça s'annonce difficile.
Mmh. Alors peut-être Paris 2024, hein, on s'en va nous demain pour Lima, hein, pour officialiser donc le fait que la France organisera en principe les Jeux Olympiques d'été en 2024 et que Los Angeles fera 2028. On peut penser que pour 2024, ça va être l'objectif maintenant.
Ça va être l'objectif.
Ça va être un peu juste pour Tokyo quand même.
Qu'on soit à la hauteur chez nous.
Oui, oui. Ça va être un peu juste pour Tokyo quand même.
Ça va être un peu juste, oui.
Alors, niveau championnat du monde, par contre, là, c'est beaucoup mieux passé pour l'équipe de France d'escrime au championnat du monde à Leipzig. 6 médailles d'or, 6 médailles, 1 or, 5 bronzes. Une équipe masculine qui, justement, a été récompensée par la médaille d'or. Et puis, l'athlétisme aussi. Là, on s'est régalé cette année. Hein. Un bilan quand même tout à fait exceptionnel. 3 médailles d'or, 2 médailles de bronze. C'est les meilleurs résultats depuis 2005, qui étaient des championnats du monde qui suivaient l'embellie des championnats du monde qui avaient été faits en France en 2003. Alors, Pierre-Antoine Boss l'a emporté sur 800 mètres.
Une magnifique victoire depuis un tour.
Ouais.
800 en live, c'était
puis c'est un type super
fabuleux.
Sympa en plus.
Ah ouais,
hein.
C'est sympa,
il déconne aussi, mais il sait
aussi,
sérieux.
La limitation de Nelson Monfort, c'est pas mal.
Ah, mais il sait sérieux quand même. Hein.
Ouais.
Et puis Kevin Mayer aussi, qui a remporté cette épreuve du décathlon. Et puis enfin, Johan Diniz, récompensé 50 km marche, enfin.
Oui, enfin, parce que quand on a vu l'année dernière dans quel état il n'avait pas fini le dernier marathon, on pouvait croire que sa carrière était terminée, mais il est bien revenu.
Ouais, c'est un type bien, un type sympa, qui s'est surtout beaucoup planté sur les épreuves phares olympiques ou mondiales. Je crois qu'il avait juste un titre de champion d'Europe, mais là c'est bien. C'est amplement mérité. Et puis naturellement, l'image qui restera, c'est le combat de trop de Usain Bolt, un troisième au 100 mètres, et qui a été contraint à l'abandon, avec le claquage sur 4x100. C'était l'année de trop, il aurait dû s'arrêter après les Jeux.
Est-ce que c'était l'année de trop ou est-ce que c'est un mauvais entraînement ou... Peut-être les deux. Hein.
Oui. Vous voyez, on parlait justement de la durée, de la longévité,
Oui. Et il s'est bien claqué.
Oui, et puis beaucoup de réceptions quand même. Hein. Ouais. Beaucoup de réceptions, donc ça explique peut-être. Enfin, bon,
je pense qu'il ne s'est pas entraîné autant que les années précédentes, en se disant, bon, je finis ma carrière, on déroule.
Ces championnats du monde, en tout cas, ça a été un des temps forts de ce bel été sportif.
Ça a été un des temps forts, même de télévisuel, parce que ça se passait en direct à la télé.
Il y a des bonnes audiences, Tour de France en a, mais les championnats du monde d'athlétisme aussi. Hein.
Ça a été comme le rugby féminin également, parce que ça a été une bonne surprise.
On va en parler. Mais avant, on va quand même finir avec les championnats du monde sur le judo. C'est tout récent. Et là aussi, bon résultat, 4 médailles, 2 or, 2 bronze, et surtout un 9e titre de champion du monde pour l'invincible Teddy Riner. Alors lui, c'est assez phénoménal, parce que lui, comme Usain Bolt, il avait pratiquement pas concouru après
pas
les Jeux.
Pas concouru et pas entraîné.
Oui. Mais bon, Bolt, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Lui, Riner, il est champion du monde.
Champion du monde, mais bon, vous avez vu le physique qu'il a.
Oui, mais enfin, les autres aussi, quand même.
Oui, tout de même.
Les autres
il
aussi.
Il a l'expérience.
Et puis un temps fort aussi, il était sportif, c'est Mayweather. Justement, on parlait des sports de combat, qui s'est imposé dans le combat du siècle devant McGregor, qui est un champion de MMA. Arrêt de l'arbitre au 10e round, c'est 50 matchs en défaite. Il dépasse Rocky Marciano et il décide, sur ce succès, de stopper sa carrière. Immense champion, et là, c'est un combat qui a tenu toutes les promesses.
Oui, avec l'argent qu'il y a eu dans le circuit, on peut l'espérer.
Mais autant il y a parfois des combats mascarades, mais là on a vu quand même que Mayweather, il a quand même été sur la réserve les 4 premiers rounds et puis ensuite il a pris le dessus. C'est l'expérience qui a parlé.
Tout à fait. Parce que l'autre c'était dans une catégorie
MMA, champion de MMA.
Mais c'est pas le même genre.
Ouais.
C'est pas le même genre. C'est plus violent tout de même.
Voilà. Et puis Francis, effectivement, les Sportco. Alors la Nouvelle-Zélande qui s'impose dans la Coupe du Monde de rugby féminine devant l'Angleterre 41-32 et l'équipe de France qui termine une nouvelle fois sur le podium, troisième, en disposant des USA 31-23. Elle avait déjà été aux 4 premières places il y a 3 ans quand la Coupe du Monde avait lieu en France.
Ouais.
Et cette équipe de France, elle passe pas loin à chaque fois.
Oui, elle a surtout raté sa demi-finale contre l'Angleterre, parce que je pense qu'on avait la possibilité de gagner, mais bon, il manquait un jeu au pied sur l'équipe de France féminine. On joue très bien la main, on manipule bien le ballon, Et puis sur le match de l'équipe d'Angleterre, il y avait quelques joueuses qui étaient un peu un ton en dessous. Mm-hmm. Sur ce match, je ne sais pas si on fait une fixation contre les Anglaises.
Alors, mais... il ne manque pas grand-chose à chaque fois face à des nations traditionnelles de rugby, Nouvelle-Zélande, Angleterre.
Oui, mais bon, ça viendra. Mm-hmm.
Alors, vous l'avez dit, on a battu des records d'audience pour le rugby féminin comme pour le foot.
Et c'est un peu surprenant, j'étais un peu surpris parce que le rugby féminin, c'est comme pour le foot féminin.
Oui, c'est pas toujours très spectaculaire, malheureusement.
C'est pas spectaculaire, mais moi j'aime bien.
Ouais. Mmh. Alors justement, le foot féminin, ça s'est moins bien passé pour notre équipe de France qui, une nouvelle fois, n'arrive pas à franchir un cap. Hein. C'est les Pays-Bas qui s'est imposé devant le Danemark 4-2 en finale. Là, on a vu une finale exceptionnelle, une finale somptueuse. Par contre, la France, elle, s'est arrêtée en quart de finale contre l'Angleterre 1-0. Bah, là aussi, les Anglaises, les bourreaux comme pour le rugby.
Oui.
Mais une équipe de France qui n'arrive pas à franchir un palier.
Non, puis une équipe de France qui était composée de pas mal de joueuses, je dirais, vieillissantes. D'ailleurs, l'entraîneur a changé également. Chouefni a été remplacé par Corinne Diacre. Dans la prochaine sélection, elle n'a pas sélectionné les vieilles, entre guillemets. Mm-hmm. Donc, il est sûr qu'il faut renouveler un peu tout ça et apporter un peu de jeunesse. Contre l'Angleterre, on a perdu un peu. On a perdu parce qu'il manquait des techniciennes, je pense. On a perdu beaucoup quand Louis Zerbessib s'est arrêté, c'est clair. Tripoter bien le ballon, mais voilà. J'espère que les jeunes seront à la hauteur.
Alors ça, c'était pour tous les grands événements sportifs de cet été. Et puis naturellement, il y a eu la reprise du foot. On a eu un mercato très long. On en reparlera dans Tribune Foot. Et puis ça, c'est complètement décanté. Neymar qui arrive, c'est un spectacle. Mbappé de People, Paris Saint-Germain maintenant qui écrase le championnat. C'est bien pour notre championnat de voir enfin de grands comme ça arriver. On a aussi des entraîneurs de renom. Puis on n'oubliera pas qu'on a encore Balotelli et Schneider, même si Schneider semble sur le déclin.
Oui, on l'a vu avec son équipe de Pays-Bas. Hein, il n'a pas touché le ballon. Mais bon, l'avantage, c'est que les vedettes attirent du monde dans les stades.
Oui, c'est pour ça, c'est plutôt bien. Moi, des droits télé supérieurs, des audiences.
Le foot, mais devant sa télé, je préfère qu'on aille au stade.
Non, on va davantage au stade depuis le début de saison.
Parce que là, on a vu le match de Paris Saint-Germain. Guingamp, c'est complet. Metz, c'est complet.
Non, puis des droits télé qui vont augmenter, des audiences télé qui montent pour les matchs de championnat diffusés sur Canal, par exemple. C'est très bien pour le foot.
C'est très bien pour le foot.
Bon, par contre,
aller au stade.
Oui, oui. Notre équipe de France, elle a fait une entame remarquable contre les Pays-Bas. Quelle démonstration, 4-0. Ouais. Et puis le couac, l'échec.
On se prend
contre
les pieds dans le tapis contre le Luxembourg.
Le Luxembourg, 0-0, on n'y arrive pas.
Je ne sais pas, est-ce qu'on a décompressé en se disant on a battu les Irlandais
Certainement, non, inconsciemment, oui. Après, il y a une équipe qui défend, il y a un maximum de réussite. Tout le monde l'a au moins connu dans le foot, là, au moins une fois.
Oui, on a toujours connu ça, mais bon, il y avait tout de même de l'artillerie chez nous. On a bien vu hier au PSG, avant-hier au PSG. Quand il y a une puissance de feu, on peut espérer qu'il y a des buts.
Alors Francis, parmi tous ces gros événements, quel est celui qui va rester le plus fort pour vous cet été?
Moi, c'est la victoire de Pierre Antoine.
Pierre Ambroise Bosch.
Ambroise Bosch.
C'est vrai.
En live parce que
Pierre Ambroise, c'est une belle
victoire. Quand il est parti de loin, il va jamais arriver au bout et il a résisté. C'est fabuleux parce que 800 mètres, c'est dur.
Très bien. Merci Francis de nous avoir accompagnés cet été. C'est pas terminé. Je vous fais envoyer la pub et la musique. Tiens, allez. Envoyez-nous la pub et la musique. Jouez les animateurs. Allez, allez.
Et voilà, on écoute maintenant la pub
et la musique.
Ça y est, c'est la rentrée et ces bonnes affaires à ne pas manquer lors des portes ouvertes du 14 au 17 septembre chez Nova Automobile à Rambouillet. Venez y découvrir et essayer la nouvelle Peugeot 308 ainsi que l'ensemble de la gamme. Quand on veut une automobile, on va chez Nova Automobile, ZA du Bel Air à Rambouillet. Ouverture exceptionnelle dimanche 17 septembre. À Rambouillet, 14 rue Chal, et c'est ma fenêtre, votre spécialiste ISO France vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres, store, volets, portes d'entrée et portes de garage, sur mesure, en PVC, bois, alu et mixte. Et c'est ma fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste et c'est ma fenêtre, 14 rue Chal, à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus.
Région avec RVE.
Voilà, alors avant de conclure cette émission, je m'en voudrais quand même de ne pas vous annoncer la 7e édition de l'Open de pétanque. Ça se déroulera donc le samedi 30 septembre de 9h30 à 18h30. Ça sera l'acte de la Sorderie, espace stabilisé derrière le collège Champollion, allée Pierre de Rosette. Ce sera naturellement à Voisin-le-Bretonneux. Si vous souhaitez avoir des renseignements pour les inscriptions, vous appelez au 01 30 43 65 85. 01 30 43 65 85. Merci Francis de nous avoir accompagnés pour cette émission de rentrée bien riche, bien chargée, hein. On a gâté les auditeurs, j'espère qu'ils vont être gâtés aussi avec vos pronos. Je m'en voudrais quand même de pas le finir avec Paris 2024, hein. Je l'ai dit, on va partir demain pour Lima où on va officialiser le fait que la France organisera probablement les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été en 2024. L'été sera beau, Los Angeles aura 2028, ça va être un énorme booster pour le sport français en général, pour notre pays et pour notre région.
Et pour notre région, parce qu'on aura les épreuves de cyclisme donc autour du Vélodrome de Saint-Quentin.
Alors on aura le cyclisme naturellement sur piste,
le VTT,
on aura probablement l'épreuve de cyclisme sur route qui partira de la vallée de Chevreuse, hein. Donc on peut penser qu'il partira par exemple devant le Vélodrome de Saint-Quentin. On aura également l'épreuve de golf sur l'Open de France, faut pas oublier, où il y a l'Open de France actuellement, où il y a aussi la Ryder Cup, et bien on aura le tournoi olympique de golf.
Et les épreuves d'équitation et, à Versailles ou aux environs.
Sport équestre à Versailles, devant en principe le château, donc
ça
sur la place d'armes.
Ça va être grandiose.
Oui, ça va être fabuleux. Alors oui. Bon, c'est sûr que le haras des Brevières que vous connaissez bien va servir aussi de repli. Puis il reste à désigner l'épreuve de natation de pentathlon. Alors peut-être que Rambouillet aura sa carte à jouer, qui sait.
Mm-hmm. Bon, mais ils vont construire tout de même un grand complexe nautique au nord de Paris. Donc.
Oui, alors c'est vrai que la Seine-Saint-Denis va être aussi très à l'honneur. Hein. On l'a vu dans le programme présenté par
Olympique,
Paris.
Ouais. Et puis le gros complexe sportif aquatique à côté du Stade de France.
Oui, il y a le Stade de France. Il y aura naturellement donc ce village olympique et puis le centre des médias. On va mettre à nouveau à l'honneur la Seine-Saint-Denis. Bon, c'est un vieux rêve. On a tout eu. On a eu la Coupe du Monde de foot. On a eu les championnats d'Europe de foot. On a eu la Coupe du Monde de rugby. On a eu les championnats du monde d'athlétisme. Les Jeux Olympiques d'hiver. Nous manquait le jeu d'été.
Voilà, jeu d'été. Hein,
donc ça y est, ça va être chose faite.
Un siècle, je crois. Hein.
Oui, ça sera 1924, 2024, ça sera les troisièmes jours d'été qu'on va voir, puisque les premiers avaient eu lieu en 1900.
Mmh. Et puis on aura aussi, je crois, la Coupe du Monde féminine dans 2 ans.
De foot, ouais. Et puis, si ça se passe bien, peut-être le rugby en 2023. Mais enfin, là, c'est pas gagné, c'est notre histoire.
C'est pas gagné, mais la Coupe du Monde de foot, c'est sûr.
Mmh. Très bien, merci Francis d'avoir été notre premier témoin en cette année, donc 2017-2018, c'est très chargé. Oui. La semaine prochaine, donc, on aura Patrick Bonneau, hein. C'est un aventurier. Il a fait un véritable raid multisport sur 3 continents. Il viendra nous en parler, l'homme de Cernay-la-Ville. Dans 15 jours, on parlera tennis, hein, je l'ai dit, avec Jean-Michel Lesprit. Et puis, les responsables du Master Series Yvelines de tennis. Et puis on se retrouve nous pour Tribune Foot dans 3 semaines.
Tout à fait.
Voilà, merci à tous et à tous. Merci à Arthur d'avoir été ce matin aux manettes. Il a fait un peu de prolongation. Allez, bon dimanche et restez-nous fidèles sur l'antenne d'Hervé. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut, 10h-11h la semaine prochaine. Bon.